Bon, je suis comme d'habitude ouvert à vos questions. L'enregistrement portait sur finalement la grande cassure de la théologie morale, hein, la grande cassure. Enfin, moi, ce que je considère comme la grande cassure, ce que beaucoup identifient comme la grande cassure, c'est-à-dire le XIVe siècle, c'est-à-dire Guillaume d'Ockham. Alors bon, j'en fais un grand méchant, hein, Guillaume d'Ockham.
Oui, on a vu, hein. Oh là là, il a des grandes dents, lui, hein.
Non, mais c'est pas grave, hein. Faut diviser par deux. Mais parce que bon, c'est comme d'habitude, c'est un type génial, etc. Mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même extrêmement différent de.
De Saint Thomas d'Aquin.
De oui, et puis même des pères, quoi. C'est-à-dire, voilà, on n'est plus du tout dans la dynamique des vertus, on est dans une morale de l'acte. Une morale de l'acte et de la loi. Donc, qu'est-ce qu'un acte moral? C'est un acte qui respecte la loi de la conscience. La loi de la conscience, on peut dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le catéchisme, hein, la conscience informée. C'est-à-dire, vous vous informez quand vous prenez une décision, vous vous informez à partir, bah, par exemple, du catéchisme. Je sais pas moi, de la Bible, des conseils que vous pouvez avoir de vous, etc. Et puis vous vous informez à partir de votre conscience personnelle intérieure, ce que vous, votre histoire, vos délibérations personnelles, voilà. Et puis vous choisissez une option en conscience et vous posez un acte qui est moral s'il respecte la loi pour faire vite, hein. Alors ce modèle-là, c'est un modèle qui se met en place avec Ockham, hein. Alors c'était tout un débat dans le groupe précédent là, mais évidemment chez saint Thomas tout ça existe, hein, mais simplement on a extrait de saint Thomas, on a extrait de ce que j'ai présenté comme une cathédrale, parce que c'est un poncif, hein, de dire que c'est une cathédrale, mais faut bien commencer par. Bon. On a extrait si vous voulez, hein, qui est celui de la loi et de la conscience, et puis on en a fait le filon absolu de la théologie morale. Hein, et la théologie morale est devenue une théologie où on fait le bien en agissant, en posant un acte moral, mais de moins en moins en fonction du but, c'est-à-dire de la béatitude. Hein, un acte est bon ou mauvais presque en lui-même, on pourrait dire. Hein. Alors, tout ça, c'est des jeux de tension, hein, faut pas les opposer, mais c'est des dominantes, si vous voulez, dans l'histoire de la théologie morale, c'est dominante. C'est d'ailleurs ce. Puis alors après, j'ai détaillé ce qu'on appelle les éthiques de la conscience, donc j'ai les écoles de la conscience, hein, avec le tussiurisme, etc., le probabilisme, c'est tous des ismes, si vous voulez, hein, mais tous ces ismes-là sont importants pour comprendre que les théologiens moralistes se sont fait la guerre pendant des siècles, hein, à partir de ces écoles de la conscience. Vous aviez chaque école avait une écurie, si vous voulez, avec des théologiens qui se faisaient la guerre sur les cas de conscience. Et un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, et je pense qu'il est très important de voir, hein, c'est que je l'ai dit, je crois, à un cours, mais je ne sais plus lequel, où j'ai parlé d'une distinction très importante entre la. C'était peut-être une des réponses, je crois, à des questions. Où j'ai distingué, enfin, j'ai distingué. Au Moyen Âge, on distinguait entre les théologiens dits Maioresse,
Majorès,
grands, vous vous
on
souvenez de ça, qui font de la
oui, on en
métaphysique,
avait
qui font de la
parlé.
Trinité, qui font toutes les choses nobles de la théologie, les Minoresse, c'est-à-dire nous, hein, qui sommes englués dans le choix moral. Voilà. Mais nous, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire les laïcs et les prêtres, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a demandé à l'État et que l'État ne nous a pas accordé pour faire un petit peu conflictuel, c'est qu'on retourne au sacrement dans les églises. C'est-à-dire que les prêtres puissent confesser, si on prend ce qui nous occupe. C'est-à-dire que les prêtres puissent, vous voyez, c'est très concret, puissent, comment dirais-je, juger de la conscience morale que vous leur soumettez, n'est-ce pas? Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a créé après saint Thomas et à partir du XIVe siècle, on a créé, on a renforcé, on a blindé, on va dire, une théologie noble et puis une théologie bas de gamme, low cost. La théologie low cost, si vous voulez, c'est la morale des confesseurs. La théologie low cost, on la trouve dans, je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais c'est intéressant de le dire aussi. Comme ça, Jean-Yves, il aura la stéréo. Hein. Il y a ce qu'on appelle tous les traités de théologie morale. À partir de, on va dire l'époque moderne, mais avant déjà, de plus en plus, les traités de théologie morale deviennent des traités à l'usage des confesseurs. Je dis ça, c'est très important parce que le confesseur, c'est celui qui juge de l'acte. Est-ce qu'il est moral ou pas? Alors que on pourrait penser que... Donc, vous avez une liste de péchés et à chaque péché correspond, si vous souvenez-vous de les parents, des grands-parents, les arrière-grands-parents, il y avait des listes de péchés hein, et puis étaient associés à ce péché des pénitences. Ce qu'on appelait d'ailleurs les tarifs.
Trop bizarre.
Ça s'appelait comme ça, mais ça, même avant, bien avant d'ailleurs, quand la confession qu'on appelle auriculaire s'est mise en place, sont nés ce qu'on appelle les pénitenciers avec des tarifs. Alors ça, c'est très très ancien, c'est bien avant. À partir de l'époque moderne, on voit très bien la logique, c'est-à-dire que le prêtre juge, surtout avec le Concile de Trente, juge dans un tribunal, on appelle le tribunal de la pénitence. À Rome, il y a toujours un cardinal pénitencier. Oui, c'est quand même, le tribunal de la pénitence juge les infractions par rapport à la loi. Et on est arrivé peu à peu à une morale catholique pour des confesseurs et pour des pénitents qui est essentiellement fondée sur l'idée de « je respecte la loi ou je l'enfreins ». Alors ça, c'est vraiment intellectuellement le filon, ça a été renforcé à partir, je ne dis pas que c'est né parce que ce serait faux, mais renforcé à partir du XIVe, c'est-à-dire cette centration de plus en plus forte, ce focus sur la loi et l'acte, et de moins en moins. Et alors, ça je l'ai dit tout à l'heure, au début du XXe siècle, je vais prendre la question, au début du XXe siècle, quand vous ouvriez un traité de théologie morale, ce qui était en cours dans les séminaires, ce qu'on apprenait aux séminaristes, vous trouviez essentiellement un traité des péchés. Et à la fin du traité, vous aviez les vertus. Incroyable. C'est-à-dire, vous aviez exactement l'inverse chez saint Thomas. Alors ça, c'est la preuve par excellence. Je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de le faire, la somme de théologie, c'est le traité, c'est les vertus. Eh bien, on est arrivé au début du XXe siècle, le premier quart du XXe siècle, même la première moitié, la morale, c'était le traité des péchés. On avait inversé. Vous vous rendez compte comment on est arrivé à faire ça complètement, on a marché sur la tête, incroyable. Je prends une première question. Laetitia et Karine nous écoutent?
Oui, bien sûr. Je suis là.
C'était par rapport à, comme vous avez dit, finalement, ils essayaient de faire coller le... Enfin, c'était par rapport aux infractions, par rapport à la loi. C'était aussi à une époque où, il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Donc, ça faisait de soi qu'il fallait que la loi séculaire, je ne sais pas comment... Voilà. Est-ce que ça, il n'y a pas quelque chose de ça aussi? La loi séculaire devait se caler sur des choses qui correspondaient à une vie chrétienne normale. Normal, on est d'accord avec le mot normal, mais...
Oui, ça ne change pas grand-chose parce que, le christianisme devient religion d'État avec Constantin, après c'est l'alliance du trône et de l'autel, Et puis tout change avec la Révolution française et puis a fortiori la loi de laïcité. Mais du point de vue de la construction de la théologie morale, ça ne change pas grand-chose. Hein.
C'est... Oui, ça n'a pas influé.
Non, ça n'a pas un impact considérable. Sur la théologie morale, non. Je cherche hein, dans ma tête. Ah, bah si. Si, ça a un impact sur la morale sociale et la morale économique. Hein. C'est-à-dire, il est évident qu'à partir du moment où il y a une plus grande autonomie des réalités séculières, hein, et que l'Église reconnaît, avec par exemple l'autonomie des réalités séculières, à partir du moment où l'Église reconnaît la démocratie, évidemment, il y a tout un tas de conséquences sur l'économie, enfin, la morale économique et sociale de l'Église, oui. Mais pour les sacrements, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Vous savez qu'actuellement, en réalité, l'État ne nous permet pas de nous réunir pour célébrer les sacrements, mais d'une certaine manière, c'est parce que nous obéissons, mais le pouvoir d'État, le pouvoir de la liberté de refuser le culte, hein, selon la loi de 1905. Hein. Il y a un évêque d'ailleurs qui a rappelé ce point qui, moi, je dois dire, j'avais un peu oublié. En rigueur de terme, on pourrait forcer, si vous voulez, on pourrait célébrer une messe. Il n'y a pas de. Enfin, avec des gens, on pourrait. Bon, l'État n'a pas le pouvoir de nous interdire formellement la liberté du culte. Hein, donc c'est compliqué parce que du coup, on ne peut pas dire qu'elle est non plus interdite. De fait, elle n'est pas interdite. C'est parce que les autorités ecclésiastiques acceptent de respecter les préconisations de l'État. Mais c'est pour ça, quand on entend parler en ce moment de liberté. Vous voyez, c'est. Là, carrément, la laïcité a changé beaucoup de choses du point de vue de l'éthique, c'est sûr.
Et comment l'Église, elle s'est rendue compte? Parce qu'en fait, du coup, ça manque, tout ça, ça manque un peu d'amour quand même, hein, si... moi, je trouve.
Alors.
Et comment l'Église, finalement, qui était sur cette espèce de pente savonneuse, s'est dit, oulala, ça ne va pas?
Oui. Alors là, c'est vraiment tout le mouvement de Vatican II. Hein. C'est-à-dire que la théologie morale avant Vatican II, donc le premier quart, même allez, la première moitié du XXe siècle, est une théologie totalement avachie. Hein, comme moi ce soir d'ailleurs, totalement effondrée. Donc c'était une théologie, regardez-moi, on était dans cet état-là. Non, mais c'est vrai, c'est une théologie complètement effondrée. Hein, et donc réduite à des études de cas. Dans le meilleur des cas, c'est le cas de le dire, mais surtout une morale pour des confesseurs avec l'infraction. Alors, si vous vous souvenez du premier cours, vous voyez, ça a quand même une espèce de cohérence, mon truc, c'est-à-dire que c'est toute l'Église qui s'est ressaisie à partir de Vatican II pour tous les domaines de la théologie. La Bible, la liturgie, les dogmes d'une certaine manière, parce que ce n'était pas un concile dogmatique, hein, ils n'ont pas défini un nouveau dogme, et donc la morale. Hein. Et donc, alors, on s'en est rendu compte, pour répondre à votre question, dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines, hein, et on s'en est rendu compte avant Vatican II. C'est-à-dire que c'est Pie XII en particulier, on dit souvent Pie XII, c'est un pape. Je ne sais pas quoi, conservateur, réac, probablement l'était-il, mais c'est aussi un pape innovant, parce que c'est lui qui, il n'a pas convoqué le concile, mais c'est lui qui a voulu marquer la rénovation du travail biblique, la rénovation du travail liturgique, il a fait beaucoup de choses pour préparer Vatican II, finalement. Mais effectivement, on a constaté, c'est-à-dire les papes et l'Église, je ne sais pas, que la théologie au seuil du concile était une théologie qui était fallait faire quelque chose quoi. Ça correspondait plus à rien.
Rappelez-vous. Les églises se vidaient.
Non, alors à un autre alors.
Non, c'est pas ça.
Si, c'est bien sûr. Vous avez tout à fait raison. C'est absolument ça. Mais j'avais donné l'exemple pour la liturgie. Si vous interrogez vos parents. si vous vous souvenez du témoignage à la fois des parents, des grands-parents, de ceux qui ont connu la situation d'avant Vatican II, pensez à la vigile pascale. La vigile pascale qui est aujourd'hui restaurée dans toute son ampleur, hein, à tel point qu'ils l'ont tellement restaurée que quand on entre dans la vigile pascale, on en a pour des heures maintenant. Mais rappelez-vous, le témoignage de ceux qui nous ont précédés dans nos familles, c'était quoi la vigile pascale? Elle était célébrée en fin d'après-midi.
Samedi après-midi?
En fin d'après-midi, la veille de Pâques, hein, c'était une espèce de vestige célébré en fin d'après-midi à toute vitesse. Il n'y avait quasiment plus de vigile pascale. La première célébration de l'année, la vigile pascale, saint Augustin, quand il parle de la vigile pascale, il dit c'est la vigile des vigiles. Bon. Et ben, avant Vatican II, c'était un office réduit à presque rien, une caricature d'office. Donc, et ça, c'est Pie XII qui a restauré le. Vous voyez. Donc, c'est toute l'Église qui en était arrivée, si vous voulez, à une situation pré-effondrement. Pré-effondrement. Alors, je n'en ai pas parlé, mais vous avez raison d'en parler. Ce serait une façon de construire le cours autrement, hein, mais il est certain que Pie XII et dès avant Pie XII, depuis le XIXe siècle, ce à quoi l'Église s'affronte de manière extrêmement forte et parfois violente, c'est la déchristianisation. Donc ce sont toutes les, à la fois les idéologies je dirais militantes, enfin une déchristianisation active, j'allais dire une déchristianisation de conviction, hein, même de croyance on pourrait dire, mais également la déchristianisation pratique. C'est-à-dire, comme vous avez dit, les gens ne vont plus à l'Église. Bon, alors, ce mouvement a connu une. C'est vraiment le mouvement dont on peut trouver l'origine au XVIIIe siècle avec les Lumières, hein, qui ont culminé à la Révolution, enfin, la Révolution française avec la déesse raison, etc. Voilà. Bon, mais donc, il faut penser aux Lumières au XVIIIe, et puis il y a une autre crête. Qui sont le XIXe siècle, qui a amplifié, hein, avec ceux qu'on appelle les maîtres du soupçon, c'est-à-dire Nietzsche, Freud et Marx. Et puis, XXe siècle, évidemment, ce sont les deux totalitarismes athées du XXe siècle, le nazisme et le communisme soviétique. Hein. Alors, il est évident que 18, 19 et 20e siècle, c'est vraiment trois siècles qui, par un biais ou par un autre, ont renvoyé, si vous voulez, l'Église et, pour ne pas dire le clergé, à la sacristie, hein, selon la formule du petit père Combe, n'est-ce pas, au moment de. C'est-à-dire le clergé à la sacristie. Hein, c'est. Je ne dis pas qu'on retrouverait ça dans la formule de M. Castaner. Hein, à savoir la prière, c'est personnel, mais il y avait un vague petit, voilà, ça m'évoquait quelque chose. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas tort en disant que la prière c'est personnel, sauf que c'est 50% de la réalité pour un catholique.
Bah oui, parce qu'en fait l'Église
et qu'une religion a besoin de s'exprimer dans des manifestations publiques. Donc il a fait une réponse qu'il a improvisée d'ailleurs, je crois, qui n'est pas fausse, mais qui est tout à fait incomplète.
Et du coup, vous nous avez demandé, mais j'ai pas eu le temps. Alors, moi, je l'ai fait, mais très rapidement, parce que c'est vrai que voilà. Mais il n'empêche, du coup, j'ai ouvert quand même le catéchisme, et je vous avoue, je pense que c'est la première fois que j'ouvre le catéchisme.
Écoutez, c'est bien, on enregistre ça. On envoie ça à Rome et je suis nommé évêque dans la foulée.
Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une version du catéchisme en BD parce que je vous avoue que je ne lirai jamais. Ce n'est pas ma capacité de ma génération. Hein. Je peux vous dire que les générations futures n'y êtes. Hein.
C'est un peu aride.
Ah non, mais sûr.
C'est sûr. C'est un peu aride. C'est pour ça aussi que.
On a une image de plus là. Voilà, bonsoir. Oui, donc vous avez regardé le catéchisme au oui. miracle.
Voilà, c'est ça. Parce que vous nous dites, la question, si je retrouve le thème, c'était quels sont les principes sur la partie morale et quelle est l'organisation.
Oui, oui.
Et j'ai quand même eu moi l'impression que ça nous ramenait plutôt vers saint Thomas que qui a monté la pente en fait.
Bonne réponse. Ouais, c'est ça. C'est aussi ce qu'on s'est dit dans le groupe précédent. Hein. La structure du catéchisme, elle est thomiste de toute façon. C'est évident. Alors après, pour les spécialistes que vous commencez à être, hein, c'est pas n'importe quel thomisme. C'est un thomisme. Enfin, c'est un thomisme plutôt équilibré quand même, mais enfin, qui est quand même assez centré sur l'acte, même s'il y a un très beau, dans le catéchisme, il y a quand même beaucoup de choses sur les vertus, donc il ne faut pas que je sois trop dur. Mais oui, c'est de la structure, elle est fondamentalement thomiste. Ouais. Mmh. Ceux qui ont écrit ce catéchisme, ce sont des théologiens, pour deux d'entre eux, dominicains d'ailleurs, donc formé à l'école de saint Thomas. Jean-Paul II, qui a publié le catéchisme, était lui-même assez thomiste. Hein, donc, c'est un catéchisme structuré d'un bout à l'autre par la société. C'est pas étonnant, mais on aurait pu imaginer, je ne sais pas, une structure augustinienne hein, du catéchisme. Ça n'aurait pas été la même chose. Voilà.
Là, c'est vrai qu'on n'a pas été dépaysé par rapport à ce que tu avais dit, parce que
vous voyez
c'est encadré par les béatitudes en amont, ouais. par les vertus, les vertus après. Donc, c'est
voilà. tout à voilà, fait. Vous voyez, on retrouve, on comprend pourquoi ce catéchisme est rédigé comme ça, parce que saint Thomas l'a inspiré, tout simplement. Donc là, on comprend la structure du catéchisme si on comprend. Remarquez, la structure du catéchisme, c'est la structure de saint Thomas et c'est la structure de non seulement de la morale, mais de la théologie catholique dans son ensemble. Mmh. La plus officielle, hein, parce que vous avez plein de théologiens qui ne fonctionnent pas comme ça, mais dans la version officielle, c'est ça. Absolument. Alors, et vous avez un point important aussi, c'est pour ça que je n'ai pas évoqué dans le précédent groupe. Je suis toujours meilleur le soir, je remarque ça. Parce que,
c'est bien. C'est la qualité des éditeurs.
Mais voilà. C'est comme en présentiel. En présentiel, c'est pareil. Parce que le soir, je me rappelle tout ce que je n'ai pas raconté au groupe d'avant.
Ça, c'est terrible.
Oui, c'est terrible. C'est terrible. Et par exemple, ce que je n'ai pas raconté, c'est qu'il y a un élément fondamental dans le catéchisme. C'est la structure de l'acte moral dans le catéchisme. Alors, vous irez regarder une deuxième fois le catéchisme, vous verrez, la structure de l'acte moral, c'est vraiment à savoir qu'est-ce qu'un acte moral. C'est un acte qui a un objet.
Ah oui, mais voilà. Alors ça, je n'ai pas compris.
Ah, ben voilà. Alors, on va prendre
un exemple. Je l'ai dit trois fois. Hein.
On va prendre trois exemples. Puis je vois après la question.
Non, mais ça peut attendre. Après, c'est juste que je l'ai vu deux, comme ça, je ne l'oublie pas. Vous inquiétez pas.
Ouais. Donc,
un objet, une circonstance.
Oui, et il manque quelque chose.
Et une intention.
Oui, voilà. Autrement dit, quand on se décide en conscience, quand vous posez un choix moral, vous devez réfléchir à l'objet de l'acte, à son intention.
L'objet, c'est l'objectif ?
L'objet, c'est le but, oui. Le but, l'objectif, l'intention, la fin, la finalité, ça, c'est synonyme. Hein. Et puis, troisième point, les circonstances. Alors, je vais prendre un exemple apparemment très simple, et en fait vous allez voir beaucoup plus compliqué qu'on imagine. On va prendre le décalogue, hein, tu ne tueras pas. Quel est l'objet de l'acte? Supprimer la vie de quelqu'un. Tuer, c'est-à-dire la personne était vivante, si vous la tuez, elle meurt. Donc, l'objet, il est mauvais. L'intention de l'acte, l'intention, vous pouvez avoir envie de vous venger, vous pouvez détester une personne et sous l'emprise d'une passion porter atteinte à sa vie parce que vous voulez la supprimer. Bon, c'est, et puis les circonstances.
Soulager ses souffrances, non.
Pardon.
Soulager ses souffrances.
Oui, alors.
C'est pour ça que. Est-ce que c'est une intention?
Voilà. C'est pour ça que je vous dis que mon exemple, il est très simple et qui va devenir très compliqué. Et qu'on pourrait arriver très vite dans les études de cas.
Oui, parce que comment on fait en cas de légitime défense?
Attendez. donc, on a l'objet. Il est à peu près clair. Mm-hmm. Et on va tous être d'accord pour dire que, enfin, j'espère, que c'est plutôt mieux de laisser la vie à quelqu'un que de la lui retirer. Mm. Bon.
Mm. En gros, oui.
L'objet, oui. Donc l'objet, il est mauvais. L'intention, on peut y en avoir beaucoup. Mm. Alors, vous avez raison de dire tout de suite, des intentions, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Mm. Je prends l'association de ceux qui luttent pour la mort dans la dignité. Mm. Hein? Voilà. Les circonstances, si on reste sur cet exemple de mourir dans la dignité, donc, ce qui tourne autour de l'euthanasie, les circonstances, ça peut être une personne qui va prendre l'affaire Lambert, hein, les affaires qui nous ont occupées dans le monde d'avant, mm-hmm. vous savez. Oui. C'est-à-dire, cette affaire qui a quand même défrayé la chronique pendant des années, n'est-ce pas, avec des gens qui sauvent des familles, qui déchirent une famille, et qui ont fait la guerre à leur médecin, etc., sur un patient dit aussi relationnel, etc. Bon. Alors, si je prends cet exemple, quand l'objet est mauvais, dit le catéchisme, l'acte est mauvais. C'est-à-dire, vous ne pouvez jamais, à partir du moment où vous avez un objet mauvais, c'est tout, la question du jugement, ça s'arrête. L'objet est mauvais, à savoir tuer, donc on ne pose pas l'acte, jamais, dans aucune circonstance. C'est-à-dire, quelle que soit l'intention, vous pouvez avoir une intention bonne, par exemple la dignité. Vous pouvez avoir une intention bonne aussi, ça va être... Par exemple, dans le cas de retirer la vie de quelqu'un, la légitime défense. Je défends ma vie ou je défends la vie de mon groupe, de ma famille, de ma nation, etc. Et quelles que soient les circonstances, si on reprend l'exemple de l'euthanasie, quelqu'un qui est grande souffrance, qui a la grande maladie de Charcot, par exemple, et qui, j'en sais rien, etc., ce qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi, on fait quoi? Et donc, les circonstances, c'est ça. Par exemple, l'Église va dire, tuer quelqu'un, c'est... Donc, on a un objet qui est mauvais. Donc, comme l'objet est mauvais, l'acte est mauvais. Tout le temps, partout, toujours. Ah oui, mais... C'est bien saint Thomas d'Aquin qui a parlé de la guerre juste. C'est-à-dire qui a justifié, par la légitime défense, notamment, par la légitime défense, le fait de retirer la vie à des gens, parce qu'il fallait se protéger ou protéger son pays. Et voilà, tout à coup, un acte qui est donc mauvais, mais une intention bonne, et là, le catéchisme ne dit rien. Bizarre, non? Vous voyez, il y a comme des contradictions. Hein, d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est l'exemple que j'ai là, que je donne là. Chez saint Thomas, il y a donc ce qu'on appelle la doctrine de la guerre juste, donc il définit les conditions éthiques pour lesquels on peut faire la guerre. Donc, les conditions et comment tu ne tueras pas ne sont pas systématiques. Le pape François a remarqué cette contradiction dans le catéchisme. Je pense qu'il n'y a pas que lui qui l'a remarqué, c'est lui qui a décidé de la chose suivante. Il a fait supprimer de la mention concernant la guerre, si vous voulez, il l'a fait supprimer du nouveau, de la toute nouvelle édition du catéchisme. Ça a fait un peu de bruit parce que, mais il a dit, écoutez, il faut être cohérent. Hein. À partir du moment où on dit tu ne tueras pas, on ne peut pas ensuite dire aux gens que ça va être légitime. Voilà. Donc il a fait changer ça. Alors, c'est pour vous dire que, et je prends la question juste après, je n'oublie pas Ophélie.
Non,
hein,
non, ne vous inquiétez pas.
Un acte, normalement, quand il est mauvais, on ne peut jamais le poser. Regardez toutes les questions de bioéthique, début et fin de vie. L'Église va considérer que l'acte est mauvais. Par exemple, les manipulations du vivant hein, au début. Tout ce qui concerne le... Bon, alors, à ce moment-là, on va dire que l'acte est mauvais, donc je ne peux jamais le poser, quelle que soit l'intention et quel que soit l'acte. C'est-à-dire que l'intention ne modifie pas l'objet de l'acte et les circonstances non plus. Je donne toujours cet exemple, puis j'arrêterai là, pour vous dire que tout ça, c'est compliqué. Ça justifie les études de cas, et puis ça justifie les études de cas en conscience. C'est un exemple vrai que j'ai connu il y a fort longtemps, très longtemps maintenant. J'étais jeune prêtre, et ça ne m'est pas arrivé à moi, mais on me l'a raconté à l'hôpital, d'un médecin qui m'a raconté ça. Une jeune femme catholique, pratiquante, qui vit seule. Elle n'a plus son mari. Elle a eu un premier enfant atteint d'une maladie congénitale qui limite fortement les chances de vie et les chances de vie et les conditions de vie d'ailleurs de ce premier enfant. Elle vit seule dans une situation économique désastreuse. Elle a accueilli la vie selon le principe de l'Église catholique, c'est-à-dire la vie est toujours on ne peut pas y toucher, la vie est sacrée. Donc elle a accueilli ce premier enfant. Elle a rencontré un autre homme, deuxième grossesse, diagnostic prénatal, à nouveau le médecin à nouveau lui annonce que c'était à prévoir que son deuxième enfant sera atteint de la même maladie. À nouveau, elle se pose la question en conscience et elle fait tout le travail. Elle en parle à son curé, elle en parle autour d'elle. Qu'est-ce que je fais ? Ça devient extrêmement complexe. Hein. Donc, vous voyez, l'acte, il est toujours mauvais parce que il faut accueillir la vie, quelle qu'elle soit, la vie naissante, la vie don de Dieu. Hein, ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique là-dessus. Mais difficulté économique extrêmement grande, solitude, enfant avec un pronostic de vie très mauvais. Elle en parle, elle s'informe, elle prend conseil et elle décide seule, en conscience, qu'elle n'accueillera pas cette deuxième vie. Et donc, elle a recours à l'avortement. Fin de l'histoire. Ceci pour vous dire que ces affaires-là, concernant l'acte, avec son objet, son intention et sa fin, ça peut devenir extrêmement compliqué. Vous voyez ? Si vous le vivez, comme c'est le cas, je veux dire, c'est légitime, ça devient un drame de conscience. Ce drame de conscience, il y a pour le vivre, effectivement, c'est pour ça qu'à l'hôpital, on fait des comités d'éthique, hein, parce que c'est pas facile de se décider. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas rester seul, mais qu'on prend conseil autour de soi. Mais le sanctuaire intime de la conscience, c'est ce qui fait qu'au final, on opte pour... alors, on opte pour quoi ? On opte pour le... Selon une théorie dont je n'ai pas parlé là, mais pour un moindre mal, ou parfois, ou, voilà. Hein. Ophélie.
Alors moi, je suis baptisée depuis 11 ans. Et en fait, dans mon catéchuménat et puis même dans ma vie de jeune chrétienne, je dois vous avouer que les vertus, on ne m'en a jamais parlé. Enfin, J'ai jamais entendu ce mot-là comme quelque chose à suivre. On m'a parlé des péchés, comment fallait se confesser, tout ça, tout ça, machin.
Voilà, voilà.
On fait ce qu'on peut, tout ça, machin aussi, d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, quand vous dites justice, tempérance, prudence,
oui.
Jamais entendu parler au sens
Où
j'ai pas eu d'enseignement dessus, quoi. Enfin,
non, parce qu'on fait de la mauvaise
catéchèse. Qu'est-ce que c'était, quoi ?
Mais parce qu'on fait de la très mauvaise catéchèse.
Oui,
c'est-à-dire, c'est de la très mauvaise. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont très convaincus d'enseigner le catéchisme, mais quand on prend le catéchisme, le seul problème, c'est qu'ils parlent tout le temps des vertus. Quand même, il est assez bien fichu ce catéchisme du point de vue des vertus et de l'acte, mais on réduit souvent la catéchèse, on va au plus vite, quoi. Et le plus vite, c'est quoi ? C'est d'apprendre à quelqu'un, attention, il y a des péchés, il faut éviter. Alors que la morale, ce n'est pas d'apprendre à éviter les péchés. La morale, c'est d'apprendre à agir selon le bien. Vous comprenez le truc ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas inverser les priorités. La morale, c'est apprendre à agir selon le bien. Quand on apprend à agir selon le bien, on arrive à éviter les péchés.
Oui, bien sûr. On a acquis des forces pour pouvoir arriver à travailler, oui, c'est ça.
En évitant le mal, parce que péché, parce que pénitence, non. C'est en apprenant la dynamique du bien qu'on va arriver à secondariser les péchés. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Or, c'est vrai que dans les catéchèses fondamentales, vous voyez, le Concile Vatican II n'est pas encore, ni Saint Thomas, ni le Concile Vatican II n'arrivent à implanter ou à faire porter du fruit, c'est-à-dire qu'on en reste à une morale centrée sur le péché.
On est encore j'allume sur la pente descendante.
J'allume juste à côté de moi, sinon je ne vois plus rien. Oui, voilà.
Finalement, les vertus, on en entend parler quand on a un petit peu d'histoire de l'art, parce que dans l'iconographie, les vertus sont très représentées, en fait.
Oui, c'est les vertus sont partout dans les palais de justice, puisque la justice est une vertu, et le moindre musée, vous avez les quatre vertus cardinales, etc. Voilà, voilà. Alors, il faut dire aussi que les vertus étaient tombées. On avait caricaturé les vertus, hein. C'est-à-dire que si on les a évincées de la morale, c'est aussi parce qu'on les avait réduites à une caricature d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, la vertu de tempérance, qui est une grande vertu, la vertu de tempérance, c'est celle qui est censée s'appliquer à tout le domaine de l'affectivité, de la sexualité. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de cette vertu ? On en a fait une manière d'éviter les péchés contre la sexualité. On a détourné la vertu de ce qu'elle était, à savoir, non pas seulement tempérer une vie, en latin c'est modérer, hein, moderari, modérer une vie, c'est apprendre à, là aussi, à construire un chemin vertueux, et c'est en construisant ce chemin vertueux, y compris de sa psychoaffectivité, qu'on arrive à éviter le pire. Mais la vertu de tempérance a été très souvent réduite à une répression pure et simple de la sexualité qui a été très longtemps considérée comme le domaine par excellence du péché. En gros, le sixième commandement. Alors, je disais dans le groupe de tout à l'heure, il y a une. Donc, les vertus ont été caricaturées. C'est amusant parce que les vertus viennent du monde païen. Oui. Elles ont été baptisées par Saint Thomas. Hein. Baptisées, je dis ça, c'est caricatural, mais on a pu le dire comme ça. Puis on les a de nouveau oubliées. On s'en fichait complètement. Et apparemment, dans ce que disait Ophélie. On s'en fiche toujours. Hein, voilà, voilà. Mais il y a tout un courant de théologie, de philosophie, pardon, américaine, anglo-saxonne, aurait dit le général de Gaulle, qui les a réhabilités il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, notamment par un philosophe qui s'appelle Alasdair MacIntyre, M-C plus loin, I-N-T-Y-R-E, MacIntyre, qui a écrit un petit livre qui a été une. Fait une bombe, si vous voulez, aux États-Unis, qui s'appelle Après la vertu. et qui est une redécouverte des vertus aristotéliciennes qu'on avait complètement mises sous le boisseau. Et donc, c'est par ce biais-là qu'était... Ce petit livre a été une espèce de, si vous voulez, de, on a redécouvert par ce petit livre l'intérêt des vertus. Et maintenant, vous avez des... Vous avez, dans le courant de la philosophie païenne, apparemment pas dans la catéchèse, mais vous avez à nouveau des éloges des vertus. Regardez un philosophe parfaitement païen comme Comte Sponville.
C'est ce que j'allais vous dire.
Comte Sponville. Il a écrit. Il a beaucoup écrit. Il a écrit le petit traité des vertus, etc.
Exactement.
Il n'y a pas plus païen que Comte Sponville. D'ailleurs, il a fait une intervention récente sur un plateau de télévision sur les patients âgés. Mais il a écrit sur les vertus. Et donc, c'est quand même incroyable de se dire que la catéchèse réussit encore parfois à évacuer le cœur de la théologie. Voilà, l'exemple d'Ophélie était un très bon exemple. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec les vertus. Quand on fait une catéchèse à toute vitesse, qu'est-ce qu'on fait ? On parle d'abord du péché.
Ouais, et puis je crois aussi qu'on transmet ce qu'on reçoit. C'est la solution de facilité. Donc, si on n'a pas reçu, on ne transmet pas. Il faut vraiment se poser des questions et se dire, ah oui, mais alors, est-ce que c'est intelligent, pas intelligent, être au courant ? Je ne sais pas, hein, c'est une forme de paresse. Je ne dirais pas laxisme, j'ai retenu votre définition.
Yes. Oui, bon. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est une forme de paresse et ça dépend aussi comment ont été formés ceux qui transmettent, en effet. C'est une vraie question.
Mais moi, ce que vous me dites, ça réconcilie quand même avec la morale chrétienne qui, pour moi, est un mot repoussoir. Quoi. Moi, j'attendais ce trimestre pour me dire, bon, ah, on va ouvrir la boîte. Très bien.
Donc, sur morale chrétienne, c'est ça ?
Le mot morale chrétienne. Ah oui, oui, oui. Moi, Donc, c'est bien.
Je prends la parole, mais ça veut donc dire que gens qui forment à la catéchèse n'ont pas pris eux-mêmes le temps de lire cette catéchèse.
Ben non, mais...
Si vous voulez...
Ben non, je sais pas, moi je suis pas prof de... Moi je l'ai pas lu effectivement, mais je suis pas prof de caté.
Oui, mais tu vois... T'aurais été maman caté, on a dû te le demander. J'ai jamais été maman caté parce que je travaille et que je n'ai jamais pris le temps. Mais j'aurais eu du temps, je l'aurais fait. Mais je ne serais jamais allée lire le catéchisme pour enseigner à des bambins de 10 ans ou 12 ans.
En fait. Moi, c'est pareil, avec mes 6e, 5e, quand je fais de la pastorale, je ne vais pas voir le catéchisme de l'Église catholique.
Non.
Mais avec les... Puis on ne voit pas que des chrétiens.
Je reconnais que ce sont des textes qui peuvent être tout à fait rébarbatifs, mais... Je m'interroge quand même beaucoup sur l'écart parfois considérable entre la grande théologie morale, enfin celle dont je vous retrace un itinéraire, si vous voulez, peu par les sommets, mais un itinéraire quand même, et ce qu'on en fait
au quotidien
dans la pastorale, au moins, ou dans une certaine pastorale, parfois ici et là. Où on est quand même, on réduit la morale à vraiment au petit bout de la lorgnette, enfin à la portion congrue. Et en effet, la morale, c'est le péché, voilà. C'est la caricature. Ça. C'est la caricature.
Ouais.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Et c'est pour ça que c'est que quels que soient nos efforts, on a implanté. Parce que la. Comme l'a souligné Jean-Yves, les béatitudes sont bien présentes et ont une place très, 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 très centrale et très primordiale dans le catéchisme de l'Église catholique. Hein? Mais les béatitudes, qu'est-ce que les béatitudes si ce n'est le portrait de Jésus lui-même ? Hein? C'est-à-dire, les béatitudes, si on réduit les béatitudes à de la morale, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que les béatitudes qui, en effet, sont structurantes pour la vie morale, mais c'est Jésus qui fait son propre portrait. Qui est celui qui était doux par excellence, qui était miséricordieux par excellence, qui était pacifique par excellence, c'était Jésus. C'est comme ça que la vie morale prend un sens. Sinon, les païens en font autant. C'est pour ça aussi que les vertus sont intéressantes, parce que être juste, être tempérant, être prudent, etc., c'est un beau portrait de l'homme, c'est le cas de dire de l'homme juste, hein, au XVIIe siècle, on aurait dit c'est l'honnête homme. Bon. Donc, c'est des valeurs qu'on peut partager avec beaucoup de gens, mais quand on est chrétien, ce qui va insuffler l'ensemble du dispositif sont les vertus théologales, c'est-à-dire le don gratuit et suréminent de Dieu. Ce qui renouvelle complètement la dynamique.
Et puis, il faut quand même dire que c'est quand même... Comment dire ? Moi, je le vois plus positivement de dire il faut devenir... Enfin, il faut être vertueux plutôt qu'il ne faut pas être, quoi. De définir par un positif au lieu de définir par un négatif. Quoi.
Ça, c'est...
Non, mais ça, c'est pas fini, ça, hein, même dans l'éducation.
Il y a un des points saillants que vous aurez peut-être, comment dirais-je, remarqué, et puis peut-être vous en ferez votre miel, c'est que la morale, c'est une dynamique vers le bien. C'est une dynamique vertueuse vers le bien. Oui, c'est pas d'abord une... Voilà, c'est très différent de proposer, vous comprenez, il y a une très belle définition d'un théologien protestant qui s'appelle Olivier Abel, qui dit qu'est-ce que l'éthique ? C'est imaginer le préférable. Alors j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle est ultra simple, elle est ultra vraie, et elle est tout à fait compatible d'ailleurs avec les éthiques de la conscience. Quand vous prenez une décision difficile en conscience, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Imaginer, autrement dit, ça veut dire que la morale ou l'éthique sollicite notre imagination. Hein, c'est pas seulement de la reproduction de ce qu'on sait déjà, c'est imaginer et le préférable. C'est-à-dire que ce qu'on cherche toujours, c'est le meilleur bien. Le meilleur bien pour soi ou pour autrui. Vous voyez, on est très loin de la morale centrée sur la loi. Souvent, on identifie morale et respect de la loi. C'est-à-dire, on en reste au code de la route. Mais imaginer le préférable, c'est pas du code de la route, c'est vraiment un chemin d'humanité, quoi. Vous voyez, ça change complètement le visage qu'on peut avoir, l'idée qu'on peut se faire de ce qu'est la morale.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une dernière question?
Moi, j'ai une toute petite question. Tout à l'heure, oui. Quand vous avez parlé du livre « Après la vertu », écrit par un Américain, je crois.
Oui.
C'est dans quelles années ?
Oh, c'est autour de 2000, ça, même un peu avant.
Ah, oui, d'accord.
Ouais, Alasdair MacIntyre.
Alors moi, j'avais une question, une dernière. Ouais. C'était la session précédente, vous nous aviez demandé...
Oui.
Je ne sais plus quel c'est là, mais d'aller lire le plan de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin et de repérer où était la morale dedans.
Oui, de la somme.
Oui, c'est ça, pardon, la somme théologique, oui. Et d'aller repérer où étaient les chapitres de morale. Et,
oui.
Et au début, à un moment, je me suis dit, mais alors, peut-être qu'en fait, ça fait écho avec ce qu'on vient de dire, je réalise. En lisant toutes les têtes de chapitre, je me suis dit, non, mais à un moment, si on enlève le début et la fin, et qu'on ne prend que la liste, ça peut très bien être un livre de développement personnel.
C'est vrai.
Un peu caricatural, mais parce que c'est une liste de vertus, une liste de qualité et de défaut, en fait, on va dire. Bon, je n'ai pas lu l'intérieur, j'ai juste lu le chapitre.
Non, mais c'est pas faux. Il y a de ça. Enfin, c'est vraiment... C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un côté catalogue hein, dans la somme de théologie. Et donc, oui. Alors là, quand vous dites le catéchisme, déjà, ce n'est pas mon livre de chevet, mais alors la somme de théologie, on bascule dans un monde, pour ceux qui n'ont jamais ouvert, c'est un monde totalement étranger, avec un vocabulaire.
Déjà, les textes du Vatican II, c'est la dèche. Alors, vous imaginez la somme ?
Ah ben non, mais la somme de théologie, là, c'est... oui. Moi, je vous le dis d'autant plus que quand j'ai commencé mes études de théologie, quand j'étais jeune et beau, je me souviens la première fois, c'était impossible de comprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est le genre d'ouvrage où il faut avoir un pédagogue à disposition pour vous faire entrer dans... D'abord parce qu'il y a des problèmes de vocabulaire qui sont quand même extrêmement forts. Ensuite, il y a une manière de raisonner à laquelle on n'est absolument plus... après une certaine familiarisation, on peut se débrouiller là-dedans. Hein. Mais il y a un côté répulsif peut-être au début parce que tout simplement, c'est un monde qui nous est... c'est des mots et des notions qui nous sont pour la plupart du temps étrangères. Même quand il parle de Dieu, c'est surtout même quand il fait les parties métaphysiques de la somme, bien plus compliquées que la morale.
Ça fait mal.
Beaucoup. C'est là où on voit que les moralistes sont des petits théologiens, c'est très bien, on ne prétend pas faire de la métaphysique. Voilà. Mais la métaphysique dans la somme, c'est effectivement très... le traité du Dieu un et trine, pas facile. Mais c'est l'ouvrage, ce que j'aime bien, moi je structure toujours mon secours à partir de
Saint Thomas.
Pourquoi? Parce que vrai, parce que ça a fonctionné comme ça dans la morale de l'Église. Et c'est vrai, c'est-à-dire on peut s'en éloigner, on peut le contester, je pense qu'il faut, hein, mais au moins c'est un repère important. Et ne pas le connaître, c'est arriver à des situations, vous voyez, où la morale est réduite, par exemple, à l'enseignement du péché. C'est quand même une catastrophe. Et donc, se rendre compte qu'au XIIIe siècle, saint Thomas était considéré comme un moderne. Parce qu'il était, dans l'autre groupe, il était optimiste, c'est-à-dire il misait sur les capacités de l'homme libre et de l'homme rationnel. Hein. Et puis, il travaillait avec... les philosophes du temps, Aristote. Donc, il faudrait se demander aujourd'hui quels sont les Aristotes avec qui on pourrait travailler pour utiliser un vocabulaire commun. Voyez. Alors, je donne parfois cet exemple, il est catastrophique, mais je ne suis pas sûr que Michel Onfray soit du calibre d'Aristote, mais il faudrait trouver des philosophes qui pourraient nous aider à renouveler le geste de saint Thomas, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse avoir plaisir à trouver des autorités profanes comme celle d'Aristote à l'époque de saint Thomas pour nous aider à réfléchir, à nous renouveler. Voilà. Ça, c'est un peu un rêve. Hein, parce que, dès que maintenant, le saint Thomas, dans les milieux romains, par exemple, fonctionne comme un... ça empêche de penser. Vous dites saint Thomas a dit, c'est fini. Vous voyez, c'est dans la somme. Ah, ok. Alors, si c'est dans la somme, on peut plus penser parce que c'est dans la somme. Sauf que la somme, c'est quand même un ouvrage du XIIIe siècle. Et donc, on peut considérer qu'un ouvrage du XIIIe siècle a un peu vieilli et que si on veut affronter certaines questions d'éthique un peu innovantes, on ne soit pas obligé de répéter purement et simplement. Le grand théologien que fut Thomas. Voilà. Voilà. On arrête là.
Passionnant.
Très bien.
Merci. Bon. Merci à vous. Merci à Jean-Yves d'avoir assuré la qualité de cette transmission. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve sur nos antennes, hein, si vous voulez bien.
Mardi prochain.
Voilà, mardi prochain et bon déconfinement alors, hein, pour ceux et celles qui affrontent.
Voyez doucement.
Oui, prudemment. La prudence est maîtresse de. Voilà.
Exactement.
Voilà.
Prudence.
Prônésis, c'est ça.
Prônésis, à la semaine prochaine. Hein.
Ouais. Au revoir. Bonne soirée.
Bonne soirée à chacun.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.